In St Albans, Colney Heath and Elstree, 92.6 FM Radio Verulam.
Bush à Oreille on 92.6 FM Radio Verulam.
On 92.6 FM, on Radio Player and online at radioverulam.com, this is Community Radio for West Harts. The third Thursday of the month at 9 o'clock, and that's time for Bouche à Oreille, Radio Verulam's programme for francophones and francophiles. The next hour will be exclusively in French, so brush up your language skills and get ready for a taste of France with Aline Bavister and Geraldine Zielinski.
And welcome to Bouche à Oreille.
Bonsoir et bienvenue à Bouche à Oreille avec vous de 21h à 22h tous les troisièmes jeudis du mois. Ouvrez vos oreilles.
Alors ce soir, nous allons nous tourner vers le monde du travail ici en Grande-Bretagne, ses opportunités, codes, us et coutumes et les différences avec la France. Nous recueillerons le témoignage de Nadra Cardine et Véronique Roberts qui nous feront partager leur expérience.
Et nous retrouverons également toutes nos rubriques habituelles. Nous ferons un petit tour rapide des actualités françaises du mois. Martin Clavier nous régalera de l'origine d'expressions liées à notre thème du travail. Et Pierre Connet nous donnera des nouvelles du Salon du Livre. Enfin, pour notre rubrique Tranche de Vie, nous recevrons Élise Didier ici dans le studio.
Tout un programme. Et en plus, Mélanie, tu vas nous aider à nous cultiver, comme d'habitude, c'est ça?
Oui, bien sûr, et avec plaisir. En plus, je serai généreuse ce soir, puisque les auditeurs attentifs auront la chance de gagner des places pour le one-man show d'Olivier Giraud, How to Become a Parisian in One Hour, prochainement au Leicester Square Theatre à Londres. Mais tout d'abord, quoi de neuf en France, Aline?
Eh bien, moi déjà, je peux vous dire comment être parisienne, hein. En 5 minutes, hein, ça fait longtemps, mais enfin bon, j'en ai quand même des souvenirs. Alors, de quoi a-t-on parlé en France? Eh bien, d'abord, les intempéries dans l'Hexagone ont dominé les infos de ces dernières semaines, avec jusqu'à 19 départements déclarés en vigilance orange par Météo France. Les températures dans le nord de la France sont demeurées quasi arctiques des jours durant, avec de la neige en plein Paris et, pour finir, du verglas qui a causé de nombreux problèmes sur les routes. Cela rappelle un peu la situation que nous avons vécue de ce côté de la Manche cet hiver. Routes non salées ou déneigées, véhicules et poids lourds coincés, des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage. Et pour finir, plusieurs autoroutes fermées.
Je vois vraiment pas de quoi tu parles.
Oui. Alors les transports ferroviaires urbains et interurbains ont également été perturbés, ainsi que des vols retardés ou annulés. Bref, le chaos total a régné. Les piétons n'ont pas non plus été épargnés et le verglas sur les trottoirs a fait de nombreuses victimes avec une incidence élevée de fractures de poignet et du coude signalées dans les hôpitaux.
Comme quoi, il vaut mieux rester blotti bien au chaud chez soi.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que de nombreux Français ont dû se résoudre à faire au lieu de partir travailler. On ne peut encore quantifier l'impact de ces intempéries sur l'économie française, mais il est certain. Toujours en France, la ville de Marseille a de nouveau occupé une place privilégiée dans les médias. Malheureusement, ce n'est pas en tant que capitale européenne de la culture, mais à cause d'une recrudescence de violences urbaines que la cité phocéenne est à la une. La liste est longue. Braquages multiples, agressions au couteau d'un chauffeur de bus, violences et dégradations de matériel aux urgences de l'hôpital Nord, et pour couronner le tout, pas moins de 3 règlements de courte à la Kalachnikov liés au trafic de stupéfiants, qui ont fait 5 morts en 15 jours. L'un des homicides s'est déroulé un mercredi matin, en pleine cité, devant des enfants, signe, s'il en est besoin, de l'impunité apparente des criminels dans certaines cités du quartier Nord de la ville. Un groupe de femmes des cités est d'ailleurs en train de monter une association pour faire pression sur les autorités afin qu'une présence policière permanente soit instaurée. Le maire UMP Jean-Claude Gaudin, quant à lui, a lancé un appel à l'aide à l'État pour tenter d'assurer la sécurité des Marseillais.
Ben, ça risque pas d'aider à attirer les foules pour participer aux manifestations culturelles, ça?
Oui, effectivement, je pense que les touristes risquent d'y réfléchir à deux fois. Hors de nos frontières, l'élection du nouveau souverain pontife a également fait les grands titres. Tant pendant le conclave que depuis l'annonce que le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, était désormais François Ier. C'est le 266e pape et le premier chef suprême de l'Église catholique à être jésuite. François Ier est également le premier pape à venir des Amériques. Après les scandales qui ont récemment ébranlé l'Église catholique, il porte un espoir de renouveau pour Rome. 1 million de fidèles étaient d'ailleurs réunis pour sa messe inaugurale mardi matin. Je vais y arriver. Voilà. Alors, les humoristes de l'Hexagone ont profité du fait que le chef de l'État et le souverain pontife aient le même prénom pour multiplier les comparaisons entre les deux hommes, toujours au détriment évidemment du second qui est de plus en plus impopulaire auprès des Français. Alors, on a pu voir de nombreuses caricatures du président dans les journaux, le qualifiant de François Dernier ou François Zéro, entre autres.
Waouh, ça vole haut.
Bah, pas vraiment. Enfin, les médias suivent également de près la crise économique à Chypre. La proposition de taxer les comptes bancaires de tous les citoyens pour renflouer les caisses de l'État est très mal passée auprès des Chypriotes qui sont descendus dans la rue, on se dirait en France, pour faire entendre leur mécontentement. Il semblerait maintenant que les petits épargnants échappent à cette taxe. En attendant, les portes des banques de l'île restent cadenassées jusqu'à nouvel ordre.
Ils ont intérêt à avoir des gros cadenas.
Oui, je pense qu'il va falloir qu'ils aient des cadenas mouse costaud pour empêcher les gens de rentrer dans les banques. Enfin, en politique étrangère, on parle toujours de l'opération Serval engagée il y a 2 mois au Mali pour tenter d'enrayer l'avance des islamistes dans le nord du pays. Un 5e soldat français a été tué la semaine dernière lors de l'explosion d'un char et 2 autres ont été grièvement blessés dans la même explosion.
Tu nous donnes toujours des nouvelles réjouissantes, toi, à ce que je vois. J'espère que tu vas finir quand même ta rubrique sur une note positive.
Eh bien, avec plaisir. La première nouvelle réjouissante, c'est que le printemps est là.
Yes!
Et voilà. Alors, c'est du moins ce que nous dit le calendrier, hein. En attendant que les températures se réchauffent un peu.
Je ne te le fais pas dire. Oui, enfin bon, donc c'est une demi-bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui t'a laissé bouche bée alors?
Alors, ce mois-ci, ce qui m'a laissé bouche bée, c'est une information qui va réjouir les petits comme les grands. Amateurs de mode ou non. Puisque nul autre que la célèbre Minnie Mouse, la compagne de Mickey Mouse, va défiler pour la première fois dans une robe haute couture Lanvin, spécialement réalisée pour elle lors d'un défilé de mode organisé samedi à Disneyland Paris.
Où va ce monde?
Voilà, comme quoi, pas besoin d'être mannequin pour s'offrir de la haute couture, il suffit d'avoir des grosses oreilles rondes et noires.
Voilà.
Voilà, je finis ma rubrique et maintenant c'est à toi, Mélanie.
Oui, donc côté culture, je commence par le 7e art. The Harpenden Film Society projette Les Femmes du 6e étage le 27 mars à 20h. Cette comédie réalisée par Philippe Le Guay en 2011 avec Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlin se passe dans le Paris des années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille entre guillemets coincé, découvre qu'une joyeuse cohorte de gouvernantes espagnoles vit au 6e étage de son immeuble bourgeois. Maria, tu vois moi aussi.
Ah mais qu'est-ce que tu parles bien l'Espagne, c'est pas possible, on est vraiment...
Ah non mais c'est incroyable. La jeune femme qui travaille sous son toit, donc Maria, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l'opposé des manières et de l'austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion au plaisir simple.
Wow.
Voilà.
Enfin, j'espère qu'il goûte au plaisir simple sans goûter à la pauvre Marie.
Ah ben ça, il faut aller voir le film.
D'accord.
Le dernier film donc de ce réalisateur, Alceste à bicyclette, ou en anglais Cycling with Molière, fera partie du festival Rendez-vous with French Cinema in London qui aura lieu du 4 au 7 avril au Ciné Lumière de l'Institut français. Donc je vous fais le pitch. Au sommet de sa carrière d'acteur, Serge Tanner, Fabrice Luchini, une fois de plus, a quitté...
On n'a que lui comme acteur.
Il s'avère qu'apparemment, ce réalisateur l'aime beaucoup.
Ouais.
A quitté donc une fois pour toutes le monde du spectacle et vit en ermite dans une maison délabrée sur l'île de Ré. 3 ans plus tard, Gauthier Valence, Lambert Wilson, un acteur de télévision adulé des foules, lui propose de jouer le misanthrope de Molière. Serge refuse tout net, mais finit par proposer à Gauthier de répéter la grande scène entre Philinte et Alceste. Au bout de 5 jours de répétition, il saura s'il a envie de le faire ou non. Ah, ah, ah. À l'affiche de ce festival, vous retrouverez également 2 films dont nous avons déjà parlé, Populaire et Renoir. D'accord. Ensuite, n'y voyez aucune malice de ma part, mais ce sont les hasards de la programmation cinématographique en France qui fait que nos compatriotes en métropole pourront voir, entre autres, Japloux, film de Christian Duguay tiré d'une histoire vraie avec Guillaume Canet et Marina Hans. Au début des années 80, abandonnant une carrière d'avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre à sa passion, le saut d'obstacles. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment. Japloux.
Waouh, bah dis donc, ça a l'air aussi pas mal. Alors, à part le 7e art, quelles autres occasions aurons-nous de nous cultiver, Mélanie ?
Alors, on pourra aller au spectacle. Ouais. Et je vous ai parlé donc de lui le mois dernier. C'est Olivier Giraud, avec son one-man show « How to become a Parisian in 1 hour », déjà vu par 200 000 spectateurs parisiens, et qui arrive à Londres. Donc, je vous fais un petit rappel. C'est un spectacle comique, tout en anglais. N'hésitez donc pas à en parler à vos amis et vos voisins, qui dépeint les us et coutumes des Parisiens. Un véritable guide de survie pour apprécier Paris. Les dates sont le 28 mars, 25 avril et pas le 12, comme il me semble vous l'avoir dit le mois dernier.
Tu nous racontes n'importe quoi, Mélanie.
Ah, désolée.
Hein, c'est pas bien, ça.
Et le 23 mai à Leicester Square Theatre. Notez un prix spécial de 15 livres pour la première. Et pour gagner des places, retrouvez-nous en fin d'émission. Et enfin, cerise sur le gâteau, Aline. Nous aurons la chance de nous entretenir avec lui le mois prochain.
Wow. Alors, si vous avez des questions pour lui, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer.
Exactement. Donc, côté musique, le dernier album de Zazie est sorti et est dans les bacs depuis lundi dernier et il s'intitule « Cyclo ». Alors, il contient des thèmes quand même qui sont un petit peu plus graves et le son est un peu plus électro qu'à l'habitude. Maintenant, le rapport avec la France n'est pas évident. Encore que il a étudié avec le mime Marceau à Paris dans sa jeunesse, je veux parler du retour d'un grand qui n'a pas pu vous échapper. David Bowie sort son dernier album The Next Day.
C'est vrai que là, le lien avec la France, on a quand même un peu du mal à le voir.
Oui, oui, oui. Bon, c'est surtout parce qu'en fait, il y a une expo qui lui est dédié au Victoria and Albert Museum à partir du 23 mars, où, j'en suis sûre, nous croiserons bon nombre de ses admirateurs français.
Ah, d'accord, ah. D'accord, tu t'es bien rattrapée.
Donc, ensuite, je continue avec le petit écran, puisque c'est à l'occasion de la journée de la francophonie qui était hier, mais qui est également étendue sur tout le mois, l'émission Question pour un champion accueille toute la semaine des candidats de toute la francophonie et vous pouvez donc la voir sur France 3 et TV5 Monde. À votre tour, si vous avez l'humeur joueuse, vous pouvez participer aux Olympiades du français et de la francophonie, un grand concours sur le net. Et pour finir, je voulais vous parler du sport, avec tout d'abord la saison de Formule 1 qui a redémarré, avec des amateurs qui sont un peu à cran, car les retransmissions sont exclusivement sur des chaînes payantes.
Ils font toujours ce coup-là, hein, quand même.
Là, c'était pas arrivé depuis longtemps, mais là, ils sont pas contents. Hein. Mais c'est sans compter sur des petits astucieux qui ont trouvé une parade. D'accord. Ils regardent une chaîne allemande au son de la radio. Et ça marche apparemment super bien.
La radio allemande, parce que...
Non,
pas...
au son d'une radio, c'est retransmis sur Radio 5.
D'accord.
Pour les Anglais. Et il me semble, mais je peut-être RMC peut-être.
Ah, me demande pas, j'en ai aucune idée.
Moi, c'est pas grave.
D'accord. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir un commentaire dans une langue qu'on comprend.
Exactement. D'accord. Voilà, je pense que c'est possible. Enfin, l'issue du tournoi Destination dont nous avions parlé donne lieu à un désaccord. Bon, jusque-là, je vous apprends rien, hein, puisque ça arrive à chaque fois. Sauf que cette fois, il est d'ordre sémantique.
Bon.
Entre les Français et les Anglais. Une fois n'est pas coutume. En effet, pour les Anglais, les Français se voient décerner la cuillère de bois. Car ils sont derniers du tournoi. Que nenni, rétorquent les Français, car ils sont certes derniers, mais n'ont pas perdu tout leur match. L'entente cordiale est une fois de plus mise à mal. Voilà, pour toutes les infos concernant cette rubrique, visitez notre blog bouche-à-oreille.com sur Radio Veronum ou notre page Facebook.
Merci Mélanie, on se retrouve dans un tout petit instant.
Radio Veronum Community Partners.
People living with cancer or life-threatening illness can often feel isolated, confused, and alone.
Grove House in Waverley Road, St Albans, leads the way in offering free specialist care and support to patients and their families affected by cancer and life-threatening illness in St Albans, Harpenden and Decorum. To find out more about their services, or how you can become a volunteer, or make a regular donation, or leave a gift in your will, phone 01727 731 000. Or visit grove-house.org.uk.
For more on Radio Verulam Community Partners, go to radioverulam.com/community partners.
Radio Verulam Community Partners.
Hertfordshire Chorus is one of the finest large choirs in the country, performing at the top venues throughout the UK and regularly touring abroad. This nationally acclaimed choir is here on your doorstep. They rehearse every Wednesday in Hatfield and are always happy to welcome new singers. So if you're looking to join a top-class choir, then go along to any rehearsal. If you're not a singer but enjoy listening to good music, why not go along to one of the concerts? Details are on the website, which is hertfordshirechorus.org.uk.
For more on Radio Verulam Community Partners, go to radioverulam.com/community partners.
Good evening. If you've just tuned in, you are listening to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show to West Arts Francophone and Francophiles. We are here every third Thursday of the month from 9 p.m. to 10 p.m. for a show exclusively in French. Tonight, we are talking about working in the UK and how it differs from working life in France.
Oui, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission mensuelle de Radio Verulam, tout en français. Ce soir, nous parlerons du monde de l'emploi en Grande-Bretagne avec nos deux invités, mais avant de les écouter, c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel avec Martin Clavier, qui est en ligne avec nous pour découvrir de nouvelles expressions françaises. Bonsoir Martin.
Bonsoir.
Alors il faudrait que vous parliez le plus fort possible, parce qu'on a vraiment des problèmes de son.
Comme ça?
Oui. Vous pouvez même crier un peu plus.
Là, j'ai pris comme thème, donc c'était sur l'emploi, j'ai pris le travail. Donc tout d'abord, l'étymologie du mot travail, c'est intéressant puisque ça vient de tripalium, un instrument de torture. C'était un appareil avec trois pieux qui servait à immobiliser les chevaux et qui servait également d'instrument de torture. Donc autrefois, le travail, c'était simplement l'état d'une personne qui souffre, et on a gardé ce sens-là avec, en obstétrique, hein, le travail d'une femme qui est en train d'accoucher.
Ah oui, tout à fait, oui.
Alors, et puis maintenant, c'est simplement une occupation qui demande des efforts dans des activités de production.
Tout à fait.
Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on cherche un petit peu des citations ou des proverbes sur le travail, on en trouve quelques-unes qui sont sérieuses. Par exemple, Faulkner qui disait « Le travail et la liberté, c'est quelque chose qu'il faut... Le bonheur et la liberté, c'est quelque chose qu'il faut gagner par son travail. » Ou beaucoup plus ancien, Euripide, « Le travail est le père de la renommée. » Ou La Fontaine, « Le travail est un trésor. » Mais souvent, quand on parle du travail, c'est plutôt avec un peu d'humour. Exemple, Boris Vian qui disait « Le travail, c'est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué. » Ou alors, plus connu, c'était Courteline qui disait ça « L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que ça le fatigue. » Hein, ou même encore plus... à mon avis plus drôle, quand on ne travaillera pas le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue.
Ah ça.
Alors, il y a une expression qu'on a souvent entendue, c'est le travail c'est la santé, et souvent l'expression est prise toujours avec humour en la retournant, le travail c'est la santé mais je préfère encore être malade.
Oui.
Ou le travail c'est la santé, donnez le mien à quelqu'un de malade.
Voilà.
Ou même, pourquoi y a-t-il une médecine du travail?
Oui, tout à fait.
Et puis un autre thème, c'est ce que rapporte le travail. Travailler dur paye plus tard, être fainéant, ça paye tout de suite.
Oui, après...
Ou alors, si si on veut gagner, alors ça c'est Alphonse Karr qui disait ça, si on veut gagner sa vie, il suffit de travailler, si on veut devenir riche, il faut trouver autre chose.
Oui. Ah, c'est bien, c'est un thème qui donne lieu à beaucoup d'humour.
Oui, mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit bien que ça se classe, c'est-à-dire qu'il y a les, ça c'est à propos de ce que ça rapporte, hein. Il y a quelqu'un même qui dit, là j'ai pas trouvé qui a écrit ça, j'arrêterai de faire semblant de travailler le jour où on arrêtera de faire semblant de me payer.
Oui.
Alors, ça, c'est celui qui travaille, il trouve qu'il n'est jamais assez payé pour ce qu'il fait.
Voilà.
Et puis, j'ai trouvé aussi un petit peu les proverbes par région. Hein, on dit en Corse, si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça te passe.
D'accord.
Ou alors, si le vin te gêne dans ton travail, supprime le travail. Et puis, ou un proverbe russe, même le plus petit travail doit commencer par une grande pause.
Ah, ça, c'est une très bonne philosophie, ça.
Il y a plein de choses intéressantes dans tout ça. Ou alors, c'est Roberto Rossellini qui disait qu'en napolitain, le mot travailler n'existe pas. Ça se dit fatigare.
Ah, tiens, d'accord. Tout un programme.
Tout un programme. Ou alors, en espagnol, il y a un proverbe espagnol qui dit les premiers à table sont les derniers au travail.
Les premiers à table sont les derniers au travail, oui.
Oui.
Il faut qu'ils digèrent, voilà.
Alors des choses, des gens pourtant très sérieux comme Bertrand Russell qui disait « Quand on croit que le travail que l'on fait est très important, c'est un des symptômes d'une dépression prochaine. »
D'accord.
Ou s'il faut... Alors ça, c'est un auteur français, Raymond Castor, qui disait, si pour gagner deux fois plus, il faut travailler deux fois plus, je vois pas où est le bénéfice.
Ah, bah. Ça, c'est sûr.
Et pour terminer, j'ai trouvé deux auteurs anglais. Alors, il y en a un qui est trois même. Trois anglais. Jérôme K. Jérôme, qui disait, ne rien faire n'est vraiment agréable que si on a beaucoup de travail en retard.
Mm-hmm.
Mark Twain qui disait « Il n'y a pas de saut métier s'il n'exige pas trop de travail. » Et par contre, c'est Churchill, c'est plus sérieux, qui disait « Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné, détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. »
Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
En tant que maman qui range les affaires de ses enfants, je pense que oui ça,
on est tout à fait
parlant.
Ben voilà. Écoutez, merci beaucoup Martin, et puis ben on vous dit au mois prochain alors.
Oui, au mois prochain.
Merci beaucoup. Au revoir. Si vous désirez nous suggérer des expressions pour cette rubrique ou si vous voulez en savoir plus sur certaines expressions qui vous intriguent, envoyez-nous un courriel à bouche-à-oreille@radioverulam.com ou mettez un message sur notre page Facebook ou sur notre blog.
Ou blog même.
Blog, oui, c'est beaucoup mieux blog.
Alors, avant de retrouver nos deux invités sur le monde du travail en Grande-Bretagne, tu vois, moi aussi, ça me prend en Grande-Bretagne, on va faire une petite pause musicale.
Welcome back to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly French show. Tonight we are talking about what it is like to work in the UK with two members from the West Arts French-speaking community. It's all in French until 10 p.m.
Rebonsoir sur Bouche à Oreille, c'est l'heure de retrouver nos invités pour parler de notre thème de la soirée, le monde du travail en Grande-Bretagne. C'est un sujet d'actualité car nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à traverser la Manche pour venir travailler en Grande-Bretagne. Les nouveaux arrivés ont souvent de la peine à croire que les quelques 25 km de distance entre nos deux pays puissent se traduire par un tel gouffre en matière de mode de fonctionnement au travail. Pour tenter de décoder ce mystère et élaborer un mode d'emploi de l'emploi en Grande-Bretagne, hein, c'est pas mal, hein, Nous avons la chance de recevoir Véronique Roberts dans le studio avec nous et Nadra Watson qui est en ligne à son domicile de Saint-Alban. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Bonsoir Nadra.
Bonsoir.
Oh, mais c'est bien. Nadra, on l'entend très bien.
C'est bien.
Super. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par Nadra. Alors, parle-nous un peu de toi.
Alors moi, je suis née en Normandie, j'ai grandi en Normandie, je suis née d'un papa français, bien normand, bien joueur de rugby, et d'une maman pakistanaise. Donc quand j'ai grandi pas mal avec l'anglais. La famille de ma maman a émigré essentiellement aux États-Unis, donc ils sont tous américains maintenant.
D'accord.
Avec simplement une petite famille française. Donc j'ai grandi, donc comme j'ai dit, en Normandie. J'ai fait mes études en Normandie. J'étais pensionnaire chez les Bonnes Sœurs pendant 7 ans, à l'école chez les prêtres. J'ai passé mon bac en Normandie. Et après le bac, j'ai fait une prépa, et donc une prépa subspé à l'époque. Je sais même pas comment ça s'appelle maintenant. Donc je suis allée à Sainte-Geneviève à Versailles. J'ai passé 3 ans.
Chez Ginette.
À Ginette, voilà, à Ginette. Donc voilà, avec le vocabulaire qui va avec. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs, donc une école d'électricité qui s'appelle Supélec. Donc j'étais basée en Bretagne, donc c'était à Rennes pendant 2 ans.
Donc t'as fini par sortir de ta Normandie quand même, hein?
J'ai fini par sortir de ma Normandie jusqu'en Bretagne, malheureusement l'ennemi. Et le premier mois que j'ai passé là-bas, il a plu tous les jours. Et bien qu'étant normande, j'ai dit c'est bon, je veux plus vivre en Bretagne.
Je pars donc en Grande-Bretagne qui est connue pour la sécheresse.
Voilà. Exactement. Bon, après Rennes, j'ai quand même fait la dernière année. Donc en fait, la dernière année d'ingénieur, on pouvait la passer à l'étranger. Et donc moi, je l'ai passée à Londres, à Imperial College, où j'ai fait un Master in Science, donc un master en sciences, toujours en génie électrique. Et donc voilà, et à la fin de mon école d'ingénieur, on devait faire un stage de fin d'année, et comme c'était génie électrique, j'ai fait mon stage de fin d'année à EDF. Donc j'ai fait un stage de 3 mois en R&D à EDF, et à la fin, étant Supélec, EDF m'a fait une offre d'emploi, et donc à l'époque, c'était 32 heures. Donc, c'était 4 jours par semaine.
Mais je crois que c'est toujours 32 heures. Hein.
C'est toujours 32 heures.
Il me semble.
Moi, c'était en 98, par là, 97, 98.
Il faudrait vérifier, mais je me demande si c'est...
Je pense qu'ils sont repassés à 35 heures après. Mais peut-être qu'il y a encore des œuvres de 32 heures.
Oui, peut-être.
Donc, on devait être une demi-douzaine, d'ailleurs, de Supélec qui faisaient leur stage de fin d'année là-bas. Et les deux filles ont accepté l'offre d'emploi. Moi, j'ai pas voulu parce que pour moi, donc EDF, quand tu rentres avec une certaine école, et ben, tu sais exactement ce qui se passe dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc ça me gonflait. Donc moi, j'ai dit non. Donc, je suis partie, j'ai cherché un boulot. Je suis partie et j'ai trouvé un boulot chez Capgemini, donc une société de conseil, à l'époque qui était divisée par le type d'industrie dans lequel ils travaillaient. Donc moi j'étais chez Capgemini Télécom et ils venaient d'ouvrir une entité conseil qui était différente de Gemini Consulting, qui était en fait l'entité vraiment essentiellement consulting, conseil stratégique là-bas. Donc cette entité conseil, c'était plutôt du conseil opérationnel qui accompagnait les projets d'intégration IT que faisait Capgemini dans le domaine des télécoms.
D'accord.
Et donc,
c'était en France, hein?
C'était en France.
D'accord.
Voilà, ils étaient basés au quai de Dion-Bouton à Puteaux, et ils ont déménagé quelques années après à La Défense.
D'accord.
Donc quand j'ai démarré, c'était à Puteaux, et ma première mission était à Transpac. Donc c'était très court, c'était 2-3 mois. Transpac, c'était une entité ATM de Transpac.
Tu grésilles.
Je grésille?
Ouais,
ça va,
c'est mieux comme ça.
Ouais,
ouais.
Ça va mieux.
Ouais.
Donc c'était une entité France Télécom, donc c'était très fonctionnaire. J'y ai passé que 2 mois, je devais faire une étude et pas trouver ça super intéressant, mais bon bref. Ensuite j'ai été envoyée à l'étranger pendant quelques années. Donc je suis d'abord partie en Hollande pendant un peu plus d'un an, au Kenya pendant un peu moins d'un an, en Hongrie pendant 4 mois. Ensuite j'ai refait une mission en France, à nouveau pour France Télécom, mais c'était le Orange à l'époque, donc Orange Télécom. Donc ça, c'est ma grosse expérience française. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu en Belgique et puis un petit peu en France pour une boîte allemande, en fait, mais qui essayait de faire ce qu'on appelait la dérégulation de la boucle locale en France, qui s'appelait Landtel, qui n'existe plus maintenant. Et ensuite, je suis repartie en Hollande, juste avant de marier.
Attends, tu... Ouais. Vas-y.
Allô,
ouais, tu grésillais un peu.
Grésillais encore?
Ouais.
Ça va mieux là?
Un petit peu. Ça grésille encore un peu, mais je sais pas si c'est toi ou c'est nous. Alors, dis-moi, bon, visiblement, t'as quand même été globe-trotteuse, t'as travaillé un peu partout. Alors, quelle a été la différence, en fait, entre la France et la Grande-Bretagne? Là, tu nous as fait ton parcours France, Hollande, etc., etc. Arrivée en Angleterre, qu'est-ce qui a été différent?
Déjà, bon, quand je suis arrivée en Angleterre, je suis passée par Gemini Consulting. Donc après, j'ai rejoint Gemini Consulting et je suis rentrée donc dans une boîte de conseil anglaise. Ensuite, je suis passée en tant qu'employée chez un opérateur en Grande-Bretagne, un opérateur français qui était Wanadoo. Et ensuite, maintenant, je fais du freelance. Donc en fait, j'ai touché un petit peu à tout. En Angleterre, pas en France, mais certainement en Angleterre. Donc, quelques différences. Alors, je pensais par exemple pour créer sa boîte en Angleterre, par exemple, si on veut faire du freelance, etc. C'est très facile, ça se fait, j'ai dû le faire, donc ça se fait en 10 minutes. ça se fait, tout se fait online. Il y a des aides online partout, donc on n'a pas besoin d'aide supplémentaire, on passe.
Pas besoin de faire la queue.
On fait tout seul.
À l'administration?
Alors en France, je ne l'ai pas fait, mais on m'a dit ça prend au minimum 3 mois, l'admin est difficile, avoir les papiers c'est difficile, alors qu'ici, ça se crée littéralement en 10 minutes, ça passe par Internet, 2 heures après on reçoit les papiers, le lendemain matin la boîte est créée. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile d'un point de vue administratif.
Ouais, ça
grésille encore.
Ça grésille encore?
Ouais.
Moi, je vous entends très bien.
Ouais, je sais pas pourquoi. Et donc à part l'entreprise et créer sa propre entreprise, quelles sont les autres différences que tu as vues au point de vue culture d'entreprise, par exemple quand tu as travaillé en Angleterre par rapport à la France?
Alors, moi, par exemple, tu sais quand il y a un problème et que par exemple quand il y a un problème et qu'on veut essayer de parler à quelqu'un et de s'exprimer, de dire ben il y a un problème machin, comment je gère. En France, c'est très facile. Donc on sait exactement à qui il faut parler, comment il faut parler, il y a beaucoup d'aide. Alors qu'en Angleterre, c'est moins évident. Donc s'il y a un problème, il faut parler à droite, à gauche, machin, il faut chercher tout seul, il faut trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est pas aussi facile d'accès. Il n'y a pas une personne désignée dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas une personne désignée qui allait nous aider si jamais on avait un problème sociaux ou de questions ou par rapport aussi aux avantages qu'on a dans la boîte et des choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'un point de vue droits sociaux et ressources humaines. Je trouve que c'est moins facile d'accès en Angleterre qu'en France. Alors c'est peut-être une expérience personnelle, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu comme ça.
Ouais.
Sinon, je dirais en termes d'horaire, pour moi, l'Angleterre c'est mieux que la France, c'est-à-dire qu'on travaille moins. Enfin, moi j'ai vu qu'on travaillait beaucoup moins en Angleterre qu'en France, donc il y a une vie un petit peu en dehors du boulot. C'est-à-dire qu'on peut facilement finir à une certaine heure et c'est un peu la culture d'entreprise, alors qu'en France j'ai travaillé moi dans des boîtes où on travaillait 12h, 15h et c'était normal.
D'accord.
Donc dans les différentes boîtes, bon, j'ai travaillé dans le même type de boîte en France et en Angleterre et bon, c'est un peu une différence que j'ai vue. Je trouve qu'on joue un peu plus sur l'humour en Angleterre qu'en France.
Tiens.
C'est une différence de truc. Un autre truc aussi, je dirais, je sais pas exactement comment l'exprimer, entre franchise et focus, mais en Angleterre, les gens sont très polis, donc ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils arrondissent les angles, donc il y a un problème de franchise, ce qui est un peu dommage parce que parfois, ça ferait du bien de dire les choses telles qu'elles sont et ça se passe pas du tout en Angleterre.
Ouais.
J'ai travaillé d'ailleurs une fois sur une mission où notre directeur de programme était français et ils avaient associé à ce directeur de programme un anglais qui n'y connaissait rien, mais c'était simplement pour arrondir les angles et la communication parce qu'ils savaient que le français ça n'allait pas passer. Et donc ils ont mis un mec juste pour faire la communication entre les deux. Donc ils ont donné un rôle un petit peu différent, lui donner un peu plus de responsabilité dans le domaine financier par exemple. Mais c'était vraiment pour
le médiateur
pour la communication.
C'était les Nations Unies. Bah on va se quitter là-dessus. Nadra, merci beaucoup de nous avoir appelé. Et puis malheureusement on va couper la communication parce qu'il y a beaucoup de grésillements. On va passer à Véronique. Mais en tout cas merci beaucoup.
Okay. Merci.
Et à bientôt.
À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Alors ben à ton tour, parle-nous un petit peu de toi.
Alors moi je m'appelle Véronique Roberts, je suis directeur artistique et design consultant à Londres. Je suis originaire de Champagne mais j'ai aussi habité à Paris Et il s'avère en fait que désormais, j'ai vécu plus longtemps à l'étranger en milieu anglo-saxon qu'en France. J'ai appris l'anglais très jeune et déjà toute petite, j'étais attirée par le monde de l'Angleterre, du monde anglo-saxon. Et j'ai toujours été imprégnée et fascinée par les différences de culture et de tendance, tant au niveau artistique, musical que social. N'ayant pas eu la barrière de la langue, c'était un peu plus facile. Mais l'Angleterre était une destination prédestinée en fait, et évidente pour moi, parce que j'ai toujours vu Londres comme une plateforme créative, un lieu branché, avant-garde, mais aussi très riche en histoire et culture.
Oui, donc déjà tu avais un parcours professionnel tout tracé,
bon,
quelque part. Qu'est-ce que ça a donné par la suite?
Niveau professionnel, Londres pour moi c'était un peu comme la Mecque du design. Un lieu différent, cosmopolite, avec des affluences diverses et colorées, donc très stimulant. Londres c'était ma destination pour le travail suite à Paris, où j'ai travaillé quelques années. Et ensuite, là, je me retrouve à St Albans pour la vie de famille surtout, et puis surtout pour m'aérer par rapport à la vie un peu intense qu'offre Londres.
D'accord. Et donc, les études en France, c'est ça?
Alors, les études, mon parcours au niveau études. J'ai étudié, en fait, juste après mon bac à New York. Voilà, je me suis échappée. Et ça a été très, très stimulant aussi, très...
Ville cosmopolite, elle aussi.
Voilà, alors, j'ai commencé à New York. Après, j'ai continué en France. J'ai fait un master international en communication visuelle et direction artistique. Et en fait, j'ai toujours été tentée pour travailler dans des entreprises qui étaient, si possible, multiculturelles. Et j'ai commencé donc à Paris dans une studio, une grande agence de design anglo-saxonne. Et puis, avec l'arrivée de l'Eurostar, j'ai été tentée. Londres à 2 heures de Paris. Et
ça,
c'était venu comme une évidence. Il fallait que j'aille voir ce qui se passait à Londres. Et donc, c'était la suite logique de mon parcours.
D'accord.
Et voilà, je suis partie en me disant, bon, j'irai peut-être juste pour un an ou deux. Et je suis là depuis presque 18 ans maintenant.
Ouais, on connaît ça. Hein.
Ouais. Et donc, voilà. tu as donc travaillé des deux côtés de la Manche.
Oui, tout à fait.
Et quelles sont donc pour toi les différences qui t'ont marqué?
Alors, professionnellement parlant, je trouve que le travail dans mon domaine est plus stimulant ici, plus créatif et aussi plus challenging. Ça, voilà, on lance plus un défi aux clients. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Bon, j'ai la chance pour l'instant de travailler pour une agence de design franco-française qui se trouve en fait dans les deux pays. Elle s'appelle Bug et c'est intéressant parce que je peux profiter des deux cultures, des deux villes, et puis surtout on travaille sur des projets européens ou même internationaux, mais c'est intéressant de pouvoir allier la méthode française avec la méthode anglaise et puis bien sûr les langues et les différences de culture. Donc c'est un bon équilibre, mais toutefois je pense que les clients et les agences ici en Angleterre ont une attitude plus ambitieuse peut-être. L'efficacité, le rendement dans le travail est bien meilleur parce qu'on tergiverse pas, on va à l'essentiel. On va loin dans la réflexion, c'est assez récurrent, comme je dis souvent. La stratégie, les gens sont assez curieux, avides de savoir. Et puis, en fait, on n'a pas peur de se lancer vers des nouvelles idées, des idées un peu plus poussées, plus audacieuses. Donc, voilà. Puis, bien sûr, il y a l'aspect social qui est important.
Très important.
Les virer au pub après le travail, même si après, on revient travailler, c'est toujours bien de faire un break. Voilà.
D'accord. Donc, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui veut venir travailler en Angleterre?
Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté multidisciplinaire, quel que soit, en fait, son parcours. Ce qui est intéressant, c'est que en Angleterre, il y a un petit côté entrepreneur, je trouve, ici. Et quel que soit, comme je disais, son expérience professionnelle, son âge, son profil, j'avoue que au niveau hiérarchique c'est un peu différent. Si on a des idées pertinentes et une bonne énergie, on peut pleinement être impliqué dans un projet intéressant, être écouté et respecté.
Est-ce que tu veux dire par là que par exemple pour accéder à une position supérieure, t'as pas forcément besoin d'avoir le diplôme?
Eh ben ça aide d'avoir le diplôme et les connaissances certes, mais en fait si on arrive à avoir la bonne attitude, être là au bon moment et surtout avoir quelque chose à apporter à un projet ou à une entreprise, je pense que on est plus à même de faire sa place et d'avoir une chance parce qu'en fait en France la hiérarchie est très lourde et c'est assez réglementé.
Oui, puis rigide, parce qu'une fois qu'on est dans une case qui dit que vous êtes à tel niveau, c'est fini.
Quoi. Ce que disait Nadra tout à l'heure en disant que voilà, si elle rentrait dans la première, elle savait déjà qu'elle arrivait de telle école et qu'elle allait avoir telle grille d'évolution et qu'elle savait déjà à peine avoir au moment où elle commence, où est-ce qu'elle allait terminer.
Voilà, tout à fait.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est connu. Bah, écoutez, Merci beaucoup à toutes les deux.
Oui, comme d'habitude, on est à la bourre, on est désolé.
C'est ça, on est désolé.
On a parlé vite et c'est très bien.
Et donc, on se retrouve juste pour notre rubrique lecture juste après ça.
The Solid Gold Music Show is here on Radio Verulam 92.6 FM every Saturday morning at 9 a.m. Join Derek Staines and Stephen Hall for the music and news as they flash you back to decades past between 9 and 10. Yesterday Today updates the news on your favourite stars of yesterday. Or how about one of your children's favourites in Kids Corner just after 11 o'clock? Take part in competitions where we give away CDs, DVDs and vouchers which can be spent in your local stores. And make sure you don't miss out on Stephen's now legendary gripe just before the midday news. The Solid Gold Music Show is sponsored by Dockguard of Luton and we'll be back on Radio Verulam this Saturday between 9 a.m. and 1 p.m.
Rebonsoir sur Bouche à Oreille, welcome back on Bouche à Oreille. Eh bien, on va passer à notre rubrique Tranche de vie avec notre invitée Élise. Bonsoir Élise.
Bonsoir.
Bonsoir Élise, merci d'avoir accepté notre invitation sur Bouche à Oreille et de partager ta tranche de vie avec nous. Alors, à toi aussi, la grande question, parle-nous un petit peu de toi.
Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Élise, je suis mariée à un Anglais et nous avons deux garçons. Mon mari travaille à Londres et moi je donne des cours de français en crèche et je suis également représentante pour une marque de vêtements suédois.
Alors ça fait combien de temps que tu es en Angleterre et qu'est-ce qui t'y a amené ?
Voilà, donc moi c'est les études qui m'ont amenée à Londres. Je suis arrivée en 1996 et je suis restée... en fait je faisais une maîtrise de langues étrangères appliquées à l'université de Tours. Donc j'ai fait la moitié de ma licence en Espagne. Et puis, j'ai fait la moitié de ma maîtrise à Londres, à l'université de Thames Valley, dans l'ouest de Londres. Et puis, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de rester comme lectrice de français pour la même université. Et puis ensuite, j'ai trouvé du travail à Paris.
D'accord. Donc, en fait, c'est pas le climat, hein ?
Non, c'est pas le climat. Non,
Et comment te sens-tu en Grande-Bretagne, alors ?
Ah ben, moi, j'aime beaucoup l'Angleterre. Bien que je trouve que être maman ici représente des grands challenges, hein, l'aide au retour à l'emploi étant quasiment inexistant. Mais j'aime vivre ici. Je trouve que tout est plus simple. Je trouve les Anglais agréables au quotidien.
C'est pour ça que t'en as épousé, hein.
Voilà. Exactement, et j'en ai fait deux après.
En fait, arrêtez les détails.
Et ouais, j'aime leur ouverture d'esprit, l'humour anglais m'a toujours fait rigoler. Mais il y a deux choses qui me manquent beaucoup. C'est le soleil.
Ouais, hein, c'est sûr.
On compatit.
Et, et l'apéro.
Ouais, bah en fait, on est toutes les trois pareilles, voilà, quoi, ouais, en fait. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel?
Ouais, alors je vais faire vite. Moi, j'ai fait donc après ma maîtrise de marketing, j'ai travaillé dans la com. J'ai eu deux expériences très différentes. En France, j'ai travaillé chez Sony Music pendant 4 ans, donc grosse boîte. Et en Angleterre, j'ai travaillé pour une agence de com et on était 7.
Ah oui.
Alors c'est très forcément
intime.
Voilà, on était très copains.
C'est pas là que t'as rencontré ton mari, quand même.
Non, pas du tout. J'ai rencontré mon mari chez Sony Music.
D'accord.
Voilà. Et chez Sony, j'ai commencé par un stage, ouais, hein, pendant 6 mois, et puis après j'ai signé un CDD, puis un CDI. Alors que en Angleterre, c'est plus mon expérience qui m'a permis de trouver mon travail. Bon, j'imagine le diplôme a aidé, mais j'ai pas eu besoin de faire de stage ni rien.
D'accord.
Ce que disait, je sais plus, Nadra ou Véronique, ça passe. On n'a pas besoin de faire des tonnes de stages pour trouver un emploi. On donne sa chance aux jeunes plus facilement. Mmh. Et je pense aussi qu'il est beaucoup plus facile de progresser au sein d'une entreprise en Angleterre. Au bout de 2-3 ans à un même poste, on nous propose souvent quelque chose de plus senior. Mm-hmm. Au niveau des us et coutumes, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la pause déjeuner.
Laquelle?
Ouais, voilà. Non, mais en fait, j'arrivais de chez Sony, on avait notre cantine avec entrée, plat, dessert au choix. Et puis, en Angleterre, bah, je me suis retrouvée devant mon ordinateur à manger un sandwich.
Ah oui, ça, ah, c'est sûr.
Sachant
oui.
le petit côté social, là, on l'a perdu.
Et qu'est-ce qui t'a amené à exercer ton activité actuelle, puisque tu nous as dit que tu avais changé.
Donc, oui, là. Alors en fait, après la naissance de mon aîné, j'ai pas vu l'intérêt de retourner travailler à Londres. Après, quand j'ai eu mon deuxième, je me suis décidée à reprendre une activité, mais je voulais pas retourner travailler à Londres. Donc je me suis lancée dans la vente de vêtements à domicile, des vêtements pour enfants et adultes sur le principe des réunions.
Donc, oui, comme celles qu'on connaît un petit peu, voilà, Tupperware.
Un petit peu, voilà.
Voilà, je vais faire cliché, hein, j'avoue.
C'est exactement comme les réunions Tupperware, sauf que c'est des vêtements.
Enfin, pour être tout à fait honnête et pour avoir déjà assisté à l'une d'entre elles, c'est quand même beaucoup plus sympa que le Tupperware.
Et en fait, c'est idéal, ce mode de travail, car je peux gérer mon temps comme je le souhaite. Je fais mes réunions, comme Hélène le dit, je fais mes réunions le soir quand les petits sont couchés. Je m'alloue quelques heures par semaine pour m'occuper de la partie administration. C'est très flexible, j'investis le nombre d'heures que je souhaite dans le business et puis je suis toujours disponible pour aller chercher mes enfants à l'école. Et puis si j'ai besoin, ils viennent aux réunions avec moi l'après-midi.
Alors parle-nous, là il nous reste un petit peu pas trop de temps, pardon, de cette vente donc de vêtements dont tu nous as déjà parlé, mais surtout ce qui peut intéresser nos auditeurs.
Oui, et ben en fait donc c'est une entreprise suédoise qui s'appelle Me and I. Et ce sont des vêtements pour enfants jusqu'à 12 ans, de très bonne qualité avec des motifs très identifiables et des matières de fabrication excellentes.
Dont t'es bonne en vente,
ouais,
hein.
Ouais, attention.
Plein de couleurs.
Ouais. Des motifs super sympas, les enfants adorent. Et il y a une collection également pour les mamans, donc c'est des vêtements très confortables mais très chic également. Mm-hmm. Donc allez voir sur le site. Je peux donner mon site?
Ah bah oui, évidemment, sûr. Vas-y,
alors,
vas-y.
Meandi, alors meandi.eu. Et puis comme ça, vous pouvez aller voir et vous rendre compte vous-même.
Et est-ce qu'on peut te contacter directement?
Oui, tout à fait. On peut me contacter directement par email,
Et
ou par téléphone. Donc mon adresse email, elise.lines, hein, mon nom anglais, L-I-N-E-S. @meandi.eu ou sinon vous allez sur le site et il y a une rubrique about hosting a party, vous remplissez la demande, le petit formulaire et je vous contacterai.
Super, un grand merci Élise, et puis surtout on te souhaite bonne continuation et puis plein de réunions en fait.
Voilà, merci
tout
beaucoup.
À fait.
Merci d'être venue.
Merci.
Alors en principe, on devrait maintenant pouvoir passer à la rubrique lecture avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Ça
Bonsoir,
va?
Bonsoir Pierre.
Ça va?
Bon.
Bien. Alors.
Alors comme d'habitude, on est un peu à la bourre. Hein, il faut bien dire ce qui est. Mais on sait que vous êtes en direct du Salon du Livre et Mélanie avait quelques petites questions
Exactement.
À vous poser.
Exactement. Donc c'était la journée de la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots,
alors,
s'il
oui,
vous plaît?
Alors la francophonie, c'est déjà il y a plusieurs organismes qui en fait vise à consolider la communauté des locuteurs francophones. Il y a à peu près dans trois directions. Effectivement, il y a l'éducation, la culture, et puis on pourrait dire la politique dans le sens de la diplomatie, disons.
Oui.
Hein, en sachant que la diplomatie, c'est le moyen, ou la culture, c'est le moyen le plus direct pour toucher la sensibilité des uns et des autres. Et c'est souvent par l'ouverture d'écoles, soutenir des projets, que la diplomatie fait son chemin.
Tout à fait. Il y a quelques heures, c'était l'inauguration du Salon du Livre, donc qui ouvre au public demain. En bref, qu'est-ce que c'est et quelles sont les innovations par rapport aux autres éditions?
Alors, le Salon du Livre, c'est une grande messe avec des éditeurs, des écrivains, des libraires et évidemment, des lecteurs.
Oui.
Cette année, il y a à peu près 10 000 éditeurs en France, hein, faut le savoir. Et cette année, de la particularité, il y a deux petites innovations, seulement deux, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Vous savez qu'on dit généralement dévorer des livres.
Oui.
Eh bien, cette année, nous avons un petit coin qui est consacré à la cuisine.
Oh, j'ai cru que ça allait être des livres en chocolat, moi.
Moi aussi, j'ai pensé à la même chose, mais on va pouvoir les manger. Non, même
oui.
pas.
Il y a même un truc pour les enfants qui est tout à fait sympathique, les petits ateliers. Et alors, pour les mamans, il y a tous les petits tuyaux pour leur faire manger avec pas trop de problèmes des légumes.
Ah, bah ça, faudra que j'y aille, alors.
Ouais.
Hein,
voilà. Et puis, il y a donc un hall square donc, qui est consacré essentiellement à la reliure, à la, comment dirais-je, tout ce qui est la typographie, machin, enfin, c'est très, très, très joli. C'est donc tous les livres à l'ancienne. C'est, franchement, c'est très joli, c'est sympa.
D'accord.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire la nouveauté aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va se passer tout au cours des quatre prochaines journées, c'est qu'on n'a pas oublié, évidemment, on a misé sur l'innovation.
Oui, le livre numérique, par exemple.
Vous avez parfaitement compris.
D'accord.
Il s'agit du livre numérique.
Et comment les professionnels abordent-ils ce tournant dans l'édition?
Alors, déjà, ils font des tables rondes. Alors, c'est pas vraiment des réunions Tupperware.
Bien
sûr. Mais, en fait, ils réfléchissent. Alors, ils ont toujours des grandes, grandes discussions pour savoir comment rentabiliser leurs coûts. C'est franchement des réunions pour les professionnels. Hein. Alors, ils vont évidemment parler de cette Europe et de l'Europe du livre à l'heure numérique, parce que pour eux, c'est quand même quelque chose de très important. Et pas plus tard que demain, il y aura donc la commissaire européenne au numérique, Nelly Kraus, qui sera présente.
D'accord.
On va essayer de voir un petit peu aussi tout ce qui va concerner les nouveaux moyens de communication avec des nouvelles normes. Et je vous avoue que moi, je suis vraiment absolument largué.
largué.
Alors, je n'ose même pas vous dire, parce que c'est plein de lettres, plein de chiffres. Et apparemment, il nage dedans, il nage en bonheur.
D'accord.
Mais enfin, c'est... Voilà.
Bon,
vous allez y aller au Salon du Livre?
Ah bah bien sûr, j'ai déjà des rendez-vous là-bas.
D'accord.
Et on parlait de la francophonie tout à l'heure. Eh bien, sachez qu'il y a des auteurs qui viennent de la Caraïbe, de l'Afrique, de l'Amérique.
Ah, super.
Il y a 27 pays qui sont présents. Et les pays qui est à l'honneur, c'est la Roumanie.
D'accord.
La Roumanie, qui est venue avec des poètes, des romanciers, des novellistes.
Hein. Bon, on vous réaccueillera sur nos ondes pour que vous nous parliez de...
Pour nous faire un compte-rendu, alors.
Détaillé, alors.
Pardon ?
Faudra nous faire un compte-rendu le mois prochain, alors.
Oui.
Ok, bon, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on vous dit à la prochaine fois,
au 18 avril.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
C'est donc déjà l'heure de nous quitter, oui, j'espère.
Ça passe vite hein, quand même. Hein.
Quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas?
Quand on est en bonne compagnie, ça passe.
Voilà, donc vite. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, en effet, et que j'ai quand même un petit quelque chose à vous dire. C'est que si vous voulez gagner des places pour le one-man show d'Olivier Giraud, dont nous vous avons parlé précédemment, envoyez-nous un courriel avec les 3 dates de son spectacle au Leicester Square Theatre de Londres avant dimanche 23 mars, minuit. Et nous vous rappelons l'adresse, bouche à oreille en un seul mot, @radioverulam.com.
Bon, est-ce qu'on peut peut-être dire les dates juste pour donner un petit indice
à
nos auditeurs, pour ceux qui sont vraiment restés jusqu'au bout?
Bon, alors il y a déjà le 28 mars.
Tout à fait.
Je les cherche.
Ah bon, d'accord. Alors le temps que tu cherches les dates, j'en profite pour remercier nos invités, Nadra, Véronique et Élise, et aussi un grand merci également à Pierre Connet et bien sûr à Martin Clavier.
Bon.
Toutes les infos dont nous avons traité ce soir, y compris les dates du spectacle d'Olivier Giraud, seront disponibles sur notre blog. Mais rappelez-nous vite.
Vite, 28 mars.
Ah, c'est trop tard. Allez sur le blog. Au revoir.